Journal présenté par Lisa Guyenne. Bonsoir Lisa.
Bonsoir à tous. Le week-end semblait avoir calmé l'ébullition autour du ministre de l'écologie, mais la salve de révélations cette semaine aura finalement eu raison de lui. François de Rugy a présenté sa démission en début d'après-midi, juste avant que Mediapart ne sorte une nouvelle enquête. Nombreuses réactions dans la sphère politique. Nous serons à l'Assemblée dès le début de ce journal et en studio pour décrypter cette démission surprise avec le service politique de France Culture. Des enfants soldats toujours plus nombreux au Yémen, alors que le conflit armé continue, une ONG réclame des mesures internationales. Et puis le sida de moins en moins fatal, le nombre de morts a diminué d'un tiers dans le monde en moins de 10 ans. Le Omar Gate aura finalement eu raison de lui. François de Rugy a présenté sa démission en début d'après-midi via un message sur sa page Facebook. Accablé depuis une semaine par les révélations successives de Mediapart, les repas fastueux à l'hôtel de Lassé, les travaux dans ce logement de fonction, le sèche-cheveux en feuilles d'or ou encore le HLM dans la banlieue de Nantes, trop c'est trop pour le ministre de l'écologie qui jette l'éponge donc en dénonçant un lynchage médiatique. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Vous êtes à l'Assemblée nationale depuis la mi-journée. Sur place, évidemment, de nombreuses réactions des députés, avec une certaine surprise tout de même concernant le timing de cette démission.
Oui, beaucoup se disaient que le maintien était impossible, mais ne voyaient pas forcément la démission arriver maintenant, alors que plusieurs enquêtes sont en cours. C'est en tout cas le sentiment des marcheurs Olivia Grégoire et Jean-Baptiste Djebari.
C'est la preuve qu'il est à bout. Et je souhaiterais, dans une période de réserve républicaine qui ne durera, je vous rassure, que 2 heures peut-être, qu'à minima, les oppositions écoutent et lisent peut-être son message de démission avant de continuer à s'acharner sur lui.
Moi, je constate qu'il était prêt à répondre des faits, qu'il y avait effectivement des analyses qui étaient en cours et que, pour autant, l'emballement médiatique a continué et qu'aujourd'hui, il s'est estimé n'être pas en mesure de poursuivre son poste éminemment important au sein du gouvernement d'Édouard Philippe.
Éminemment intenable, surtout pour le député Les Républicains Damien Abad.
On a bien senti hier que le président de la République, qui est intervenu lui-même alors qu'il était sur la scène internationale, montrait la gravité de la situation. Donc à partir de là, il ne s'agit pas pour nous, dans l'opposition, de couper des têtes. Il s'agit simplement de dire qu'il y avait des explications à donner. S'il considérait lui-même qu'il n'était pas en état de les fournir ou qu'en tout cas, il fallait avoir cette démission, eh bien je pense effectivement que c'est une sage décision.
Elle était de toute façon inévitable pour Delphine Batho. L'ancienne ministre de l'écologie a été la première à réclamer la démission de François de Rugy.
L'évidence s'est imposée. Le ministre n'était plus en situation d'exercer ses responsabilités, donc c'est normal. Et s'il y a une leçon à tirer, c'est qu'il faut maintenant un changement clair dans les mœurs politiques. La confusion entre le public et le privé, le poids des lobbies, tout ça n'est pas acceptable au XXIe siècle en démocratie.
Mais pour le député François-Michel Lambert, ancien marcheur, le plus inacceptable, c'est peut-être la façon dont les choses se sont passées.
Il sert bien de bouc émissaire. Il a la gueule de l'emploi du mec qui, soi-disant, utilise les moyens de l'État pour ses propres intérêts. Moi, je suis assez serein dans le temps pour qu'on démontre que François de Rugy est bien un tout autre personnage.
Les résultats des vérifications qu'on nous dit menées à l'Assemblée et au gouvernement doivent être rendus publics en fin de semaine. D'ici là, l'exécutif va devoir trouver un nouveau ministre de l'écologie moins d'un an après le départ de Nicolas Hulot.
Rosalie Lafarge en direct de l'Assemblée avec les moyens techniques de Yves Lehor. Pendant ce temps, Mediapart fait de nouvelles révélations cet après-midi. Publication quelques minutes après l'annonce de la démission du ministre de l'écologie. Selon le site d'investigation, François de Rugy aurait utilisé ses frais de mandat pour payer une partie de ses cotisations d'élu à Europe Écologie Les Verts, tout en les déduisant du calcul de ses impôts. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir.
Chef du service politique de France Culture. Stéphane, la démission de François de Rugy François de Rugy a annoncé sa démission à 14h30 en tout début d'après-midi, alors que Mediapart s'apprêtait tout juste à publier cette nouvelle affaire. C'est cela qui a pesé dans la balance?
Oui, ça a pu jouer en partie. Cette affaire concerne, vous le disiez, l'indemnité de frais de mandat de François de Rugy quand il était encore député du temps de François Hollande en 2013-2014. Il aurait utilisé cette indemnité pour payer sa cotisation à Europe Écologie Les Verts. Son parti à l'époque, 9 200 € au total. Mediapart avait envoyé hier soir un certain nombre de questions au ministre qui avait rendez-vous ce matin 10h30 à Matignon, sans doute pour faire le point sur la situation. Il fait alors savoir à Mediapart qu'il va répondre aux questions à 13h, puis à 14h, et finalement, en matière de réponse, 14h30, il démissionne en publiant un communiqué de presse sur son compte Facebook. On sent beaucoup d'amertume dans ce communiqué où il parle d'une volonté de nuire, de salir, de démolir de la part de Mediapart, et où il annonce qu'il a saisi la justice avec une plainte en diffamation. Il y a donc cette nouvelle affaire que s'apprêtait à publier Mediapart, et donc un phénomène d'accumulation. Il y a aussi vraisemblablement les propos tenus vendredi par sa directrice de cabinet, Nicole Klein, qui a raconté la brutalité avec laquelle François de Rugy lui avait demandé de démissionner démissionné. Il a voulu sauver sa tête en offrant la mienne, a-t-elle dénoncé. Enfin, ce qui a vraisemblablement pesé, c'est peut-être également ce qu'on appelle les retours de terrain des députés en circonscription. Ils étaient déplorables. Les gens ne comprennent pas pourquoi il n'a pas démissionné, ont rapporté de nombreux députés La République En Marche. On sait que le contexte social est encore tendu, que le gouvernement prépare une réforme difficile, la réforme des retraites. Et puis du côté de l'Élysée, Emmanuel Macron n'avait sans doute pas envie de voir cette affaire feuilletonnée comme il y a un an l'affaire Benalla. C'est tout ça, toutes ces considérations qui ont conduit le Premier ministre et le Président de la République à accepter la démission de François de Rugy, voire à la lui réclamer.
Et maintenant Stéphane, la question qui va se poser, Rosalie Lafarge en parlait il y a quelques minutes, qui pour remplacer de Rugy?
Oui, ça c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce qu'un des problèmes d'Emmanuel Macron depuis 2 ans est qu'il dispose de très peu de remplaçants. Il avait été déjà difficile de remplacer Nicolas Hulot quand il avait démissionné à la fin du mois d'août l'année dernière, tout comme il avait été ardu de trouver un successeur à Gérard Collomb. Là, ce sera sans doute la même chose parce qu'il s'agit de trouver quelqu'un qui incarne les ambitions affichées par Emmanuel Macron en matière d'écologie et de défense de l'environnement. Et on avait déjà un ministre par défaut avec François de Rugy par rapport à Nicolas Hulot. Alors maintenant, qui? Difficile à ce stade d'imaginer qui pourrait être la perle rare.
Merci Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. J'ajoute que nous reviendrons sur cette affaire de Rugy, la démission, les révélations de Mediapart à 18h15 dans votre émission Du grain à moudre d'été. C'est le traité qui fait trembler l'agriculture française. La ratification du CETA, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, doit être votée demain à l'Assemblée nationale. L'accord scandalise les éleveurs français qui crient à la concurrence déloyale au détriment de la qualité des produits pour les consommateurs. Les éleveurs rejoints dans leur opposition par des ONG, notamment écologistes. Oana Favennec, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à l'Assemblée nationale, devant laquelle un rassemblement a commencé il y a une heure. 70 organisations anti-CETA réunies pour interpeller les députés.
Oui, le rassemblement est plus symbolique que numérique. Quelques centaines de personnes, mais 70 associations, mouvements agricoles, syndicats et même collectifs de citoyens. Une union contre un traité qui symbolise pour eux la goutte d'eau en trop, une goutte d'eau climaticide. Les seuls chapitres du CETA non contraignants sont ceux qui portent sur l'environnement et le droit des travailleurs. Une goutte d'eau sociale, donc économique, démocratique. Et même si 90% du traité avec le Canada est déjà entré en vigueur, de nouvelles mesures seront déclenchées avec la ratification demain, comme l'application des tribunaux d'arbitrage permettant aux investisseurs privés présents au Canada d'attaquer une décision publique si elle leur était défavorable. Ils ont donc appelé les députés à ne pas valider, à ne pas ratifier le texte. Une petite dizaine d'élus les ont rejoints, 2 élus France Insoumise en tête, François Ruffin et Clémentine Autain, qui dénoncent un délit de démocratie, un texte qui passe au creux de l'été, des mensonges notamment sur les farines animales et le fait qu'on leur ait refusé ce matin un vote solennel qui aurait obligé chaque député à s'exprimer, à prendre position sur le CETA.
Oana Favennec devant l'Assemblée avec Yves Lehors pour les moyens techniques. Le projet de loi santé, lui, est adopté définitivement par le Parlement après un ultime vote du Sénat cet après-midi. Il prévoit notamment la fin du numerus clausus pour les étudiants en 2e année de médecine. Bernard Tapie, lui, n'en a pas fini avec la justice dans l'affaire de l'arbitrage avec le Crédit Lyonnais. Le parquet de Paris annonce aujourd'hui faire appel de la relaxe prononcée mardi dernier envers les 6 prévenus de l'affaire. Bernard Tapie, mais aussi le PDG d'Orange, Stéphane Richard, était jugé pour escroquerie et détournement de fonds publics. Le tribunal avait finalement décidé que l'accusation n'avait pas de preuves suffisantes de la culpabilité des prévenus. Un chiffre toujours trop élevé, mais malgré tout encourageant. 770 000 personnes sont mortes des suites du sida l'an dernier. C'est une baisse d'un tiers, pardon, par rapport à 2010, résultat du rapport annuel de l'ONU-SIDA publié ce matin. En parallèle, le nombre de séropositifs qui prennent des traitements antirétroviraux progresse, lui aussi. Bonsoir Hélène Fromanti.
Bonsoir.
Vous vous êtes penchée sur ce rapport. Alors c'est un bon résultat global, mais qui cache une réalité plus contrastée.
Oui, revenons d'abord sur les bonnes nouvelles. D'abord, vous le disiez Lisa, cette baisse générale du nombre de morts liées aux maladies du SIDA. 700 000 morts l'an dernier, c'est très largement moins qu'en 2004, lors du pic de l'épidémie, 1 700 000 personnes avaient perdu la vie. Autre avancée mise en lumière dans ce rapport, un meilleur accès des malades aux traitements antirétroviraux. Selon l'ONU-SIDA, dans le monde entier, plus de 3 séropositifs sur 5 se soignent, soit plus que jamais. Ces deux tendances dont on peut se réjouir s'expliquent grâce aux progrès réalisés dans les pays d'Afrique du Sud et de l'Est, la zone historiquement la plus touchée par le SIDA. Pour autant, dans d'autres régions du monde, certains résultats sont moins bons. inquiétant même. Dans les pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale, par exemple, dans ce secteur, depuis 2010, le nombre de nouvelles infections a augmenté de 29% et le nombre de morts de 5%. Constat similaire du côté du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, où le nombre de décès liés au sida a enregistré une hausse de 9% ces 8 dernières années. Enfin, le rapport pointe un autre chiffre préoccupant, celui du nombre global dans le monde de nouvelles infections, un chiffre resté stable entre 2010 et 2018 alors que l'ONU-SIDA envisageait une baisse de 75%.
Merci Hélène Fromanti. Par ailleurs, l'ONU-SIDA s'inquiète de la baisse des financements alloués à la lutte contre le sida en déclin pour la première fois depuis l'an 2000. Des enfants, soldats, morts au combat. Au Yémen, l'ONG Muwatana for Human Rights dénonce aujourd'hui l'impact du conflit sur les enfants, de plus en plus nombreux à rejoindre les lignes de front. La présidente de l'ONG était à Paris ce matin pour insister sur l'urgence de créer une mission d'enquête pour faire la lumière sur ce phénomène. Les explications de Capucine Jaffet.
Les enfants du Yémen ne sont pas épargnés par la guerre. Si l'on en croit l'ONG, ils seraient même victimes de viols. En tout cas, ce sont les premières victimes du conflit. Radia Al-Moutakawel est présidente de Muwatana for Human Rights.
Cette guerre ne détruit pas seulement notre présent, mais aussi notre avenir en détruisant nos enfants. On était dans un pays où nous nous battions pour avoir plus de personnes instruites et plus de 2000 écoles ont été détruites depuis le début de la guerre. Donc les enfants ne vont plus à l'école. Et dans beaucoup de quartiers, énormément d'enfants rejoignent la ligne de front. On a des photos d'enfants morts au combat, dont seuls reviennent les cadavres après une semaine ou deux.
Pour Christine Beckerley, directrice juridique de Muwatana, la responsabilité du recrutement des enfants soldats est partagée par tous les acteurs du conflit.
La coalition et le gouvernement Hadi ont souvent accusé les Houthis de recruter des enfants soldats. Et c'est vrai, Ansarallah est responsable de la majorité des cas de recrutement. Mais la coalition et le gouvernement yéménite sont aussi impliqués. Moins directement, c'est vrai, mais ils sont quand même impliqués.
Selon Muwatana, plus de 1000 enfants, dont des jeunes filles, auraient été recrutés en 2018 pour aller combattre.
Les précisions de Capucine Jaffet. Et comme tous les jours, nous partons au Festival d'Avignon pour clôturer ce journal. La chronique d'Arnaud Laporte consacrée aujourd'hui à l'Énéide par Maël Poésie.
Maël Poésie et Kevin Kais étaient venus au festival en 2016 avec la pièce « Ceux qui errent ne se trompent pas », fiction policière qui interrogeait finement la question du politique dans nos démocraties anesthésiées. De retour cette année, dans la thématique de cette édition 2019, ils se sont inspirés de Virgile en partant des premiers chants de l'Énéide pour imaginer des allers et retours entre temps passé et temps présent avec la persistance et la répétition des séquences de départ et d'arrivée, mais aussi de naufrages, drames antiques et contemporains s'il en est. Maël Poésie a choisi des comédiens et des danseurs pour prendre en charge ces figures d'exilés. Dans le très beau cloître des Carmes, nous allons faire le voyage d'Aîné et tout d'abord assister à la chute de Troie. Dans un dispositif sobre, mais avec des lumières savantes, l'espace se redécompose à chaque tableau, nous entraînant de port en port, d'île en île, jusqu'au long séjour à Carthage qui verra la naissance magique et le terme tragique de l'idylle entre Didon et Aîné. Joué en français, espagnol, italien et grec, le spectacle enjambe les frontières de façon volontariste pour faire écho à l'époque contemporaine. Mais l'humour n'est pas absent, surtout dans le traitement des dieux de l'Olympe, Jupiter en tête, présenté ici comme un gamin capricieux qui peine à imposer son autorité à Junon, qui est sa sœur et sa femme. On retiendra les belles séquences dansées par la troupe, une figure devenue habituelle dans nombre de spectacles de théâtre, mais qui est souvent embarrassante de par sa pauvreté. Ici, avec un engagement, une intensité et un esprit de groupe, la danse emporte le public qui fait un triomphe à ce spectacle. Sous d'autres cieux, c'est son titre, fera une longue tournée en France dans la saison à venir.
La chronique signée Arnaud Laporte au Festival d'Avignon. Un mot de la météo pour terminer. Demain, un peu de grisaille dans l'est et sur le bassin méditerranéen, du soleil au sud-ouest et au centre, avec toutefois des averses en montagne et en Corse, des températures comprises entre 19 et 33 degrés. C'est la fin de ce journal préparé aujourd'hui avec Brice Garcia. Prochain rendez-vous d'information, ce sera à 22h avec Ezekiel Fernandez.